Le collège de Gouta.
Des interviews, des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez On te choque.
Bonjour tout le monde. Chères auditrices, chers auditeurs, nous revoilà pour une émission au top sur Radio Onde de Choc, la radio des élèves du collège de Quissac.
Et oui, avec des sujets incroyables pour cette troisième émission.
Comme d'habitude, maintenant, balance les sujets de choc.
Avec plaisir. Voici les sujets. Aurore et Enora nous emmèneront en Russie dans la rubrique découverte. Alissa nous parlera d'une chanteuse de pop bien connue. Ensuite, une chronique un peu spéciale sur un rhinocéros radioactif. Et puis, un sujet présenté par moi, mais vous devrez écouter pour savoir de quoi il s'agit. Augustine, je te laisse continuer, j'ai plus de salive.
Pas de problème. Lucien et Léon nous parleront des objets inutiles. Louis et Charlie vont nous faire découvrir le testicrousti, la nouvelle tendance des réseaux. Puis, Suzy nous présentera un animal qu'on adore tous, le cheval. Ensuite, on parlera d'un pilote de Formule 1 très connu. Arnaud nous dévoilera son coup de cœur pour une région de France très connue. Et pour terminer, nous lèverons les yeux vers le ciel avec un sujet sur les éclipses solaires.
Youpi ! On commence tout de suite avec Aurore et Enora. À vous les filles !
Bienvenue chers auditeurs et auditrices dans notre nouvelle rubrique « Découvrir le monde ». Aujourd'hui, nous allons vous faire voyager au pays des ours et de ses merveilleuses cathédrales, la Russie.
Nous allons commencer par vous parler de ses différents emblèmes.
Enora, à ton avis, quel est l'animal national de ce pays ?
Peut-être l'ours, je ne sais pas trop.
Eh bien non, beaucoup de monde pense que c'est l'ours, mais c'est bien l'aigle à deux têtes couronnées, symbole d'indépendance.
Et maintenant, parlons de l'arbre et de la fleur typique de Russie. Pour la fleur, c'est la camomille, et pour l'arbre, le bouleau. Aurore, savais-tu que là-bas, il y avait de magnifiques cathédrales, notamment celle de Saint-Basile le Bienheureux à Moscou ?
Oui, je t'explique. Sa construction a commencé en 1555 et son inauguration a eu lieu en 1561. Elle se trouve sur la place Rouge. Aujourd'hui, elle est le symbole de l'architecture traditionnelle russe. Mais elle renferme aussi un grand secret, le tombeau de Basile le Bienheureux. Enora, savais-tu que la vodka était l'alcool préféré des Russes ?
Oui, mais attention, il faut le consommer avec modération. Maintenant, nous allons vous parler de géographie. La population russe est estimée à près de 146 millions d'habitants en 2021, avec une superficie de 17 234 033 km², soit 11,5% des terres émergées.
Du fait de cette étendue, la Russie connaît une variété de climats allant du climat subtropical humide sur les rives de la mer Noire jusqu'à des climats beaucoup plus froids dans les zones de la toundra du cercle arctique, ainsi qu'en Sibérie, en passant par des zones arides et semi-arides du désert de Rhin et de la steppe eurasienne au sud. La majorité du territoire russe est caractérisée par un climat continental avec des hivers froids et neigeux et est occupé par la taïga. Menora, quelle est la capitale de ce pays ?
Eh bien, c'est Moscou, Aurore !
Ah oui, c'est vrai, merci.
Et peux-tu nous en apprendre un peu plus sur leur langue si étrange ?
Oui, bien sûr, Enora. Au début, la langue russe était un mélange de différents dialectes slaves orientaux. Au IXe siècle, les Vikings connus sous le nom de Varegs ont commencé à établir des colonies dans la région. Les Vikings ont apporté avec eux des mots et des idées de leur langue qui ont influencé la langue russe.
Et pour finir, nous allons vous parler quelques pièces de monnaie. Le rouble russe est l'unité monétaire de la Fédération de Russie depuis le 1er janvier 1993. Son symbole est devenu officiel le 11 décembre 2013. Il est divisé en 100 kopecks. Apparu au XIIIe siècle dans la République de Novgorod comme partie de la grivna, le rouble est l'unité monétaire officielle de l'Empire russe à partir de 1721, puis de l'URSS et enfin, depuis 1991, celui de l'actuelle Russie. Merci à tous de votre écoute.
Et à bientôt dans une nouvelle rubrique découverte.
Merci Lofi pour cette rubrique culturelle. Et maintenant, Alissa va nous parler d'une chanteuse de pop bien connue,
Taylor Swift.
Taylor Swift est née le 13 décembre 1989 en Pennsylvanie. Mais comment a-t-elle fait pour être une chanteuse aussi connue aujourd'hui ? C'est LA question que tout le monde se pose. Taylor Swift a commencé à écrire à seulement l'âge de 12 ans. À 13 ans, elle apprenait la guitare et à 14 ans, elle signait déjà un contrat pour sortir son premier album. Ses tubes ont très vite du succès et elle décide de passer du country à la pop. Mais elle n'a jamais oublié ses racines. C'est d'ailleurs elle qui a remis le prix du meilleur album country à Beyoncé cette année. Nombreuses de ses chansons sont connues, notamment Shake It Off, Cruel Summer, Lover ou encore The Feat of Ophelia. Mais le savez-vous ? Taylor Swift a un chiffre porte-bonheur, le chiffre 13. Mais comment le chiffre 13 est-elle son chiffre préféré et porte-bonheur ? Eh bien, l'origine de ce chiffre a été expliquée par Taylor Swift elle-même. Elle est née un 13, elle a eu 13 ans un vendredi 13, son premier album a été certifié disque d'or en 13 semaines. De plus, sa première chanson à avoir atteint la première place des charts avait une intro de 13 secondes sans même l'avoir fait exprès. Taylor Swift est une icône incontestée de la pop. C'est une tornade musicale, une icône de mode, une figure féministe, parolière ultra talentueuse. Elle a fait une grande tournée mondiale nommée The Eras Tour. Taylor Swift le décrit comme un voyage à travers toutes les ères musicales de sa carrière. C'est comme si elle racontait tous ses albums et ses expériences dans The Eras Tour, un concert qui dure environ 3 heures où Taylor Swift change à de nombreuses reprises de look, plus de 60 costumes différents. Elle a même sorti un nouvel album en octobre dernier intitulé The Life of a Showgirl, qui fait un clin d'œil à sa tournée The Eras Tour. Elle a seulement invité Sabrina Carpenter pour sa chanson The Life of a Showgirl. Et encore une fois, son album a du succès et elle nous montre toujours ses tenues iconiques. Et c'est sur cette phrase que se finit ma chronique. A bientôt pour tes prochaines émissions.
Incroyable. Merci Alissa.
Et maintenant, une chronique un peu particulière présentée par Blue, Lily et moi sur un rhinocéros vraiment très spécial. Bonjour chers auditeurs et auditrices. C'est Blue, Lily et moi, Augustine. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une sorte d'expérience visant les rhinocéros. Rendre les cornes de rhinocéros radioactives. L'objectif est de dissuader le braconnage et de repérer plus facilement les cornes braconnées. Voilà le projet mené par des chercheurs sud-africains qui ont mis à l'épreuve leur idée lors de tests sur une vingtaine de rhinocéros d'Afrique. Conduit sur 3 ans, il avait donc pour but de protéger les rhinocéros.
Injecter du matériel radioactif dans les cornes de ces animaux alors qu'ils étaient encore en vie, beaucoup de personnes, dont moi, pourraient croire que cela tuerait le rhinocéros. Mais en réalité, cela les protégera des braconniers, car cela serait trop dangereux d'enlever ces cornes.
Cette technique doit ainsi aider à rendre les cornes plus faciles à détecter dans des endroits comme les aéroports et les ports, où de nombreux détecteurs de radioactifs sont déjà en place. Des scientifiques sud-africains ont commencé, mardi 25 juin 2024, à injecter des matériaux radioactifs dans les cornes de rhinocéros vivants. L'objectif, les rendre inutiles et plus détectables en frontière afin de décourager le braconnage qui désigne des animaux protégés.
Alors qu'ils ont frôlé l'extinction, la population de rhinocéros d'Afrique a connu une augmentation grâce aux efforts de la conservation. Aujourd'hui, la grande majorité de ces animaux vit en Afrique du Sud, mais ils ne sont pas pour autant sortis d'affaire, toujours très menacés par le braconnage.
Au total, 499 rhinocéros ont été chassés et tués dans le pays en 2024. L'injection d'une petite quantité de matériaux radioactifs dans les cornes de rhinocéros pourrait permettre de les détecter plus facilement sur les marchés de contrebande.
La marchandise contrefaite la plus précieuse du marché. Si les braconniers n'hésitent pas à tuer les hommes pour s'emparer des cornes de rhinocéros, c'est en raison de leur valeur. Elles sont très recherchées.
Cela a conduit à ce que leurs cornes soient actuellement la marchandise contrefaite la plus précieuse sur le marché noir, avec une valeur plus élevée que l'or, le platine, les diamants et la cocaïne. Malheureusement, les cornes de rhinocéros jouent un rôle important dans le financement d'une grande variété d'activités criminelles à l'échelle mondiale.
Heureusement, cette mesure est sans danger pour les rhinocéros. Chaque injection a été surveillée de près par des vétérinaires experts et des précautions extrêmes ont été prises pour éviter tout endommagement aux animaux.
L'équipe va maintenant surveiller de près les animaux au cours des 6 prochains mois en surveillant leurs statistiques vitales et leur état de santé général. Si tout se passe bien, on espère que la même technique pourra être appliquée à d'autres animaux qui sont la cible du braconnage comme les éléphants et les pangolins.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup les filles, c'était vraiment surprenant. Et maintenant, passons à un sujet sur une pâte à mâcher bien connue. Boys seem to like the girls who laugh at anything. The ones who get undressed before the second day. Girls seem to like the boys who don't appreciate all the money and the time that it takes to be fly.
Bonjour tout le monde! Comme vous le savez, moi c'est Victoria. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que tout le monde aime. Enfin, j'espère. Une chose dans un papier en aluminium et que l'on mâche longtemps pour faire des bulles. Vous voyez de quoi je parle? Bien sûr, le chewing-gum. Étant une grande consommatrice de chewing-gum, mon passe-temps favori est de faire le plus de bulles possible. Mais avant de les avoir dans nos supermarchés, comment cette pâte à mâcher est-elle apparue? Comment est-elle fabriquée? Peut-on l'avaler? Est-elle biodégradable? Et surtout, quels effets a-t-elle sur notre mental? Allez, je vous explique de A à Z. Pour commencer, le chewing-gum est un mot anglais qui veut dire en français « pâte à mâcher ». Faisons un petit saut dans le temps. Le chewing-gum, tel que l'on connaît aujourd'hui, est une invention américaine dérivée d'une pratique maya. Ces Indiens d'Amérique centrale en mâchaient depuis toujours. C'était exactement des boulettes de chiclé faites à partir de sève d'une plante nommée le sapotier et qui ressemble beaucoup au caoutchouc. Mais ce qui va faire découvrir au monde cette bonne pâte à mâcher, c'est le besoin d'argent d'un général américain. Ce général, c'est Antonio López de Santa Anna. En 1869, chassé du Mexique par une révolution, il parvient tant bien que mal à New York avec un peu d'argent et surtout beaucoup de cette fameuse pâte. Plus de 250 kilos. À la recherche d'oseille, donc de fric, il confie à son stock américain nommé Thomas Adams qui a l'idée ingénieuse d'en faire une boule à mâcher en parfumant avec de la réglisse. Et c'est comme ça que sont apparues différentes saveurs comme la fraise, la menthe, le coca, le cassis, ou il y en a tellement. Bon bref, maintenant, comment en est-elle fabriquée? J'ai la réponse. Le chewing-gum est constitué d'environ 30% de gomme élastique qu'est le polystyrobilène. Ce plastique-là est mélangé avec des charges minérales qui lui permettent d'avoir une certaine consistance quand on va les mâcher. Il faut trouver le bon dosage entre le plastique et les charges minérales. Tout le reste, 70% de chewing-gum, ce sont des additifs qui sont solubles dans la salive, c'est-à-dire des émulsifiants et des édulcorants. On a aussi des épaississants, des antioxydants, etc. Ce sont des substances qui vont donner du goût, du plaisir à la mastication. Quand on l'aura bien mâchouillé, il ne restera que 30% du chewing-gum, avec un peu de salive, donc il aura un peu gonflé.
Maintenant de vous avoir expliqué cela, comment se dégrade-t-elle? Je vous éclaire. Le chewing-gum est l'un des matériaux les plus jetés dans la nature avec les mégots. La plupart des gens pensent malheureusement que le chewing-gum va se dégrader tout seul dans la nature. Il faut savoir que le chewing-gum n'est pas un élément biodégradable. Il ne peut pas se dégrader tout seul. Mais d'où qu'elle vienne, de toute façon, elle va se dégrader de même manière. Elle met toujours du temps à se dégrader. Il ne faut pas se dire que le chewing-gum va se dégrader vite, parce que ce n'est pas du tout le cas. Il va mettre énormément de temps. Donc, on ne jette pas de chewing-gum dans la nature, parce qu'il va rester très très longtemps. Mais ça peut aussi avoir un impact sur la biodiversité. C'est-à-dire que certains animaux peuvent le consommer, et ça peut les tuer. Donc, il ne met pas seulement du temps pour se dégrader, il est aussi dangereux. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut l'avaler? J'ai souvent eu cette question, et je vais vous y répondre maintenant. Il faut savoir que si on avale un chewing-gum, finalement, il va ressortir comme s'il était rentré. Il va poursuivre son chemin et il sera évacué, mais non digéré. J'ai entendu aussi beaucoup de rumeurs sur le chewing-gum. Est-ce qu'il contiendrait du pétrole? Alors, je vais enfin, je pense, régler cette histoire une bonne fois pour toutes. La gomme est souvent issue de pétrole, mais elle peut être aussi naturelle. Et si elle en contenait, je pense qu'on en serait au courant. Et mort aussi. Maintenant, après avoir élucidé cette face cassée du chewing-gum, une autre étape assez mystérieuse. A-t-elle un effet sur notre corps? Je vous réponds. En s'intéressant aux effets cognitifs du mâchage du chewing-gum, des scientifiques ont découvert que celui-ci semble favoriser l'attention et réduire le stress chez les personnes qui le font souvent. Mais également, cette dernière limite la faim. Mais comment? Selon plusieurs études, mâcher un chewing-gum permettrait de dissimuler le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress. Elle permettrait aussi d'aider les fumeurs à arrêter leur addiction. La mastication aiderait à détourner sa vigilance, ce qui permettrait aux fumeurs de compenser leurs envies. Donc, ça a plutôt du bon, non? Mais c'est quand même pas une raison pour en prendre en classe. Enfin, peut-être. Bon bref, beaucoup de ces faces cachées ne sont pas encore élucidées, et je vous laisse sur cette phrase, mystère et boule de gomme, en vous disant à bientôt.
Merci Victoria pour ce sujet très intéressant.
Merci, merci, merci. Bien, passons maintenant sur une chronique très spéciale. Lucien et Léon, à vous de jouer.
Salut à tous, c'est Léon et Lucien. Et aujourd'hui, on va vous parler de choses qui servent autant que comme un mur d'escalade sans prise. C'est-à-dire à pas grand-chose.
Attention, cette liste est totalement subjective et est triée en plusieurs éléments. Certaines choses que l'on va dire peuvent paraître utiles, mais peuvent être remplacées par d'autres. Ou d'autres ne remplissent pas juste la fonction normale, et ce qui du coup en fait des choses inutiles, même si elles fonctionnent très bien. Bon, on commence par...
Le scanner pour voir si un avocat est mûr.
C'était LE truc à voir au Consumer Electronics Show de 2023, qui est un des plus grands événements d'électronique du monde. Le scanner à avocat, un petit appareil qui permet grâce à un simple scan de savoir si un avocat est mûr ou non, pour ne plus se faire avoir quand on fait une salade.
Le casque Oculus qui peut tuer le joueur. Et quand je dis tuer, je veux bien dire assassiner, ôter la vie, supprimer de la surface de la Terre. Ce casque de réalité virtuelle est l'invention de Palmer Luckey, un passionné des avatars liés au monde réel. Du coup, il s'est dit « Tiens, tiens, ce serait cool, un casque vert qui tue vraiment le joueur en lui faisant exploser le cerveau grâce à des modules de charge explosive se déclenchant quand il meurt dans le jeu. » On vous rassure, ce casque devrait rester une œuvre d'art et peu de chances qu'on le retrouve à Monoprix. Plus qu'une seule solution pour ne pas mourir, jouer à Animal Crossing.
J'ai mieux. La machine qui lave les verres. À deux doigts d'inventer la vaisselle et le lave-vaisselle, la start-up AOMS a développé une machine qui lave, désinfecte et sèche les verres en moins de 10 secondes. Alors oui, c'est beau, ça évite le gaspillage des verres en carton, tout ça, tout ça. Mais pourquoi se compliquer la vie alors qu'on peut juste acheter les gourdes pour le bureau ou simplement se munir d'un torchon, surtout quand le lave-vaisselle existe? On a aussi les chaussures SDF de Balenciaga.
Si vous avez besoin de preuves que Balenciaga ne fait que des créations horribles...
C'est subjectif.
Pas de soucis, on en a. Cette marque a sorti en 2022 sa paire de chaussures Paris, dont le style a l'air librement inspiré de la vie des personnes les plus démunies. Oui, oui, les gens payent pour avoir cette paire aux pieds.
Ah
bah,
ouais, quand même.
Où tu vas, Lucien?
Me laver les yeux, surtout que ça coûte très cher.
Le parfum senteur poil brûlé d'Elon Musk. l'ex, enfin nouveau, enfin re-ex, bref, on sait plus trop, patron de Twitter, n'a pas manqué de se faire remarquer en 2022.
Qui est étonné ?
Il a en effet sorti son parfum odeur poil brûlé, vendu pour la petite somme de 104,95 euros. Donc voilà, si vous voulez porter l'odeur des poils d'un homme riche resté trop longtemps au four, vous savez quoi demander au prochain Noël ?
Alors, il a fait un tas de trucs que j'ai pas compris, mais alors là... Et en plus, spoiler, ça sent pas très bon. Les tunnels sous Las Vegas d'Elon Musk, encore une fois. Pour votre plaisir, le seul et l'unique, Elon Musk revient avec une belle invention pourrie. Le patron de Tesla a décidé de construire, pour la modique somme de 500 millions de dollars cette fois-ci, des tunnels étroits sous Las Vegas pour désengorger le trafic, en théorie, en parcourant plusieurs kilomètres en seulement quelques minutes. Le problème, c'est que ces tunnels sont tellement peu larges qu'ils ne peuvent contenir qu'une voiture, qu'ils ne comportent aucune issue de secours et que des usagers se sont déjà retrouvés au beau milieu d'un embouteillage dans ces tunnels dits anti-bouchons.
Mais vous inquiétez pas, hein, notre milliardaire préféré prévoit des voitures à 16 passagers pour bientôt. Comment ça fait trop envie ! Oh là là !
Ah ouais, incroyable ! Le masque pour téléphoner sans faire de bruit. Alors croyez-le ou non, mais une start-up française a mis en place un masque qui permet d'étouffer le bruit de la voix lorsqu'on est au téléphone au milieu d'un open space, par exemple. Pratique lorsqu'on bosse au service secret. Sinon, il y a juste à aller dans une salle de réunion pour être un peu plus tranquille.
Les ombrières à Paris.
Et oui, pour lutter contre la canicule et la chaleur, la mairie de Paris a mis à l'essai des ombrières durant l'été 2022.
Eh bien, c'est super ce truc, il est où le problème ?
Elles sont en bois d'arbre, donc ils ont inventé des arbres faits en arbre, mais qui protègent moins bien que des arbres et coûtent plus cher que des arbres.
Ah non, mais plus comment que des arbres. C'est trop malin en fait. La bougie au beurre. Alors, attendez, si j'ai bien compris, c'est juste mettre une mèche à bougie dans une motte de beurre pour tremper sa tranche de pain plutôt que de simplement se faire une bonne tartine.
Mais pourquoi vous faites ça? Ça n'a aucun sens. Expliquez-moi, je veux comprendre vraiment. Surtout que sinon, on met le beurre sur le pain, puis on le fait chauffer le tout.
Et c'est terminé. Il y a des choses pouvant être rajoutées, mais on n'a pas un temps illimité. Et certaines choses peuvent paraître inutiles, mais sont juste mal utilisées. En tout cas, merci à vous, car vous êtes très utiles. Évidemment, nous n'avons rien contre les personnes et les marques citées plus tôt. Ceci est totalement subjectif. Si vous voulez trouver le site que nous avons trouvé pour nos recherches, c'est Topito 11 choses inutiles.
Allez, merci les artistes pour votre implication. Maintenant, on remballe. Ciao !
Merci. Bien, passons maintenant sur une chronique très spéciale de TF2, le Tasty Krusty.
Et bien le bonjour, vous qui nous écoutez sur la chaîne internationale de radio, qui n'est d'autre que TF2. Aujourd'hui, on va vous parler du Tasty Krusty. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Eh bien, je vais vous laisser Charlie nous l'expliquer.
Ouvrez bien vos oreilles, je vais vous raconter l'histoire du Tasty Krusty. Le Tasty Krusty est apparu en 2012. C'était un plat thaïlandais à base de riz et de poulet pané, qui avait comme objectif de remplacer le kebab et autres produits de restauration rapide. Il n'y a pas si longtemps, les réseaux ont explosé et des milliers de vidéos de dégustation montrent de grosses barquettes de poulet et de riz frits dans un restaurant à Paris. Très vite, des centaines de restaurants en France ont ouvert proposant la même chose, mais à des prix pouvant aller de 15 à 20 euros. Il n'y a pas si longtemps que ça, de grandes chaînes de fast-food proposent aussi ce poulet riz.
Je vais maintenant vous parler des sushi rolls, qui sont un peu dans le même style que le Tasty Krusty. Le sushi roll est apparu en janvier 2026 et a lui aussi été connu grâce au réseau. Le restaurant à Paris propose des tubes de carton remplis de sushis prédécoupés qu'on pousse vers le haut pour les manger. Il en existe plusieurs types, avec des prix variables allant de 13 à 15 euros.
Ces deux exemples que l'on vous a cités montrent à quel point les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la société. Si un grand influenceur goûte une chose, sa communauté va faire de même, créant un mouvement commercial. Certains de ces objets ont fait le buzz pendant un moment et ont disparu aussi vite qu'ils sont apparus, comme la Elmore Jen ou le chocolat de Dubaï. Ces deux produits ont été iconiques pendant un certain moment et sont retombés dans l'oubli.
Et avant de terminer cette super chronique, on vous propose le grand jeu TF2, qui bien sûr n'est pas payé. Donc cette fois-ci, la question est la suivante: combien y a-t-il de vaches au Sahara ? Pour y répondre, rien de plus simple, appelez 000, mais là c'est vous qui payez. Et on attend vos réponses. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur TF2.
« Merci beaucoup pour cette chronique super passionnante. Et maintenant, on change complètement d'ambiance.
Oui, on va parler d'un animal que beaucoup de gens adorent. Un animal élégant, rapide et très impressionnant.
Le cheval. Suzy, c'est à toi.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui sur On the Show, je vais vous parler de ma passion pour le cheval. Pourquoi le cheval ? Car le cheval est un animal incroyable à mes yeux. Il est robuste, intelligent et il nous comprend mieux que certains humains. Certaines personnes pensent que l'équitation n'est pas un sport, mais pour nous, cavaliers et cavalières, c'est plus qu'un sport, c'est une passion qui nous anime. Moi-même, j'ai deux chevaux, Vandalo que j'ai eu comme cadeau d'anniversaire à mes 10 ans, et Jalisco, c'est mon papy qui me l'a offert par surprise. Ma tati en possède 9, nous habitons un mas familial tout près de Quissac. Nous élevons des cochons, des taureaux et bien sûr des chevaux. C'est le mas du cirque. Mon événement préféré, c'est les spectacles équestres, et j'y participe. Le but du spectacle équestre, c'est de faire vivre aux personnes présentes, petits et grands, une immersion dans le monde du cheval. Ma tati et mon tonton créent une nouvelle histoire chaque année. Par exemple, l'année dernière, l'histoire portée sur la famille et les amis. Je pratique de la voltige depuis que je suis toute petite. N'hésite pas à venir me voir sur scène. Juste pour vous dire que le cheval est une créature merveilleuse pour ceux qui s'y intéressent. Mes chevaux sont des émeraudes pour moi. Je ne peux m'arrêter de penser à eux quand je pars en vacances. La première chose auquel je pense, c'est de le retrouver. Cet été, j'ai perdu mon cheval qui m'a donné la confiance dont il fallait pour monter sur un cheval de plus de 420 kg et de 1m60 de hauteur. Alors, le courage, il faut l'avoir. Et je sais que tous ceux qui montent à cheval pensent comme moi. En ce moment, je suis en train de débourrer un jeune poulain. Débourrer veut dire apprendre à un cheval à avoir une personne sur son dos et à mettre un mors dans la bouche. Le mors est un objet en métal qui fait le lien entre la bouche du cheval et les mains du cavalier. Et ça, mon poulain l'a accepté et moi sur son dos aussi. Il s'appelle Jalisco, c'est espagnol. Il est portugais et camargue. Mon deuxième cheval s'appelle Vandalo. Il est marron avec les crins noirs. Il a une jambe toute blanche. Voilà, c'est la fin de cette immersion dans le monde du cheval. Je suis contente de vous avoir partagé ma passion.
Merci Suzy pour ce très beau sujet sur le cheval. On espère un jour te voir sur scène. Maintenant, nous laissons la parole à Maximilien.
Everybody was kung fu.
Salut à tous, c'est Maximilien et aujourd'hui je vais vous parler d'un pilote de F1 très célèbre. Il s'appelle Max Verstappen, il est né en 1997 en Belgique. Il a fait partenariat avec Red Bull Racing jusqu'à la fin de la session de 2028. Ce n'est pas juste l'un des meilleurs, il est la référence actuelle. Entre deux grands prix, Max ne reste pas les bras croisés. Son entraînement mêle sessions physiques intensives, travail mental et simulateurs privilégiés, l'endurance, le renforcement musculaire et la concentration. En plus, il base beaucoup de temps sur les circuits virtuels pour affiner sa précision. L'accident, la première séance de qualification de la nouvelle réglementaire de la Formule 1 a offert un spectaculaire un coup de théâtre pour Max Verstappen. Le quadruple champion du monde a vu sa tentative tourner en cours dès la Q1 du Grand Prix d'Australie auprès d'une sortie de piste brutale sur le circuit de Albert Park à Melbourne. Face à de nombreux tours, le moteur a jugé anormal, le système s'est alors placé automatiquement en mode de sécurité. Si la procédure a déclenché l'intervention du frein moteur, provoquant immédiatement le blocage de l'essieu arrière. Habituellement, le freinage sur les roues arrière est légère par le système Brake by Wire qui module électroniquement la répartition du freinage. Dans ce cas-ci précis, ce dispositif n'est cependant pas à l'origine de l'accident. Le problème provient bien des différents modes de gestion de l'ERS qui ont verrouillé le système instantanément, laissant Verstappen sans possibilité de reprendre le contrôle de sa monoplace. Cet incendie illustre parfaitement le stade encore précoce du développement des technologies de récupération d'énergie intégrées au groupe propulseur actuel de la Formule 1. Dans ce contexte, de problèmes de jeunesse peuvent encore survenir et avoir des conséquences immédiatement en piste, au point d'éliminer un pilote à la qualification, comme ce fut pour le cas pour Verstappen Melbourne. Dans la perspective de la course, la prévision formulée par Frédéric Vasseur semble d'ailleurs particulièrement crédible. Le directeur de Scuderia Ferrari estime en effet que le Grand Prix de dimanche pourrait s'avérer particulièrement chaotique en raison de l'importance cruciale de la gestion de l'énergie tant sur les plans stratégiques que sur celui de la fiabilité.
Merci Max, c'est à toi Arnaud.
Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud et je vais vous parler du Pays Basque, cette terre coincée entre l'Atlantique et les Pyrénées, partagée entre la France et l'Espagne. J'y pars souvent en famille, car c'est là où habitent mes grands-parents, et je trouve que c'est une terre exceptionnelle, que ce soit pour les paysages, la gastronomie, le patrimoine ou le folklore. Dans cette région du sud-ouest de la France, il est incontournable de visiter Bayonne, la capitale. Bayonne est une ville qu'on connaît surtout pour le rugby, car son équipe est dans le top 14, mais elle possède surtout un patrimoine exceptionnel. Ses remparts de Vauban, sa cathédrale gothique Sainte-Marie, ses ruelles colorées aux maisons à colombages, sans oublier le célèbre jambon de Bayonne. Bien sûr, il faut évidemment admirer la sublime plage de Biarritz, pour moi l'un des plus beaux endroits du monde. Je ne chercherai pas à décrire davantage cet endroit, car il est tout simplement indéfinissable, et je vous invite simplement à aller le voir. J'adore aussi randonner sur la Rune. On peut y monter à petit train à crémaillère, mais nous préférons y monter à pied. Tant que je parle de la Rune, j'en profite pour embrayer sur le folklore basque, car la Rune y est très importante. En effet, le Pays basque est également connu pour sa mythologie particulière, des légendes qui mettent en scène de nombreuses divinités et que je trouve très intéressantes. Je dois aussi vous parler du gâteau basque, cette incroyable pâtisserie dans laquelle on met soit de la crème, soit de la confiture de cerise. Le Pays basque, c'est finalement tout ça. Une culture, une langue mystérieuse vieille de millénaires, une cuisine généreuse, une incroyable équipe de rugby, un folklore fantastique et des paysages qui officient entre l'Atlantique déchaîné et les verts vallons des Pyrénées. Merci de m'avoir écouté.
Merci Arnaud. Et à présent, écoutons notre dernière chronique avec Sean.
Bonjour chers auditeurs, savez-vous qu'il y aura une éclipse solaire quasiment totale visible en France le 12 août 2026 ? Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une éclipse solaire ? Il faut savoir qu'une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil et projette son ombre sur la Terre. L'éclipse solaire presque totale sera visible dans une bonne partie de la France le 12 août 2026, notamment sur l'ouest de la France. Pour cet événement, qui n'était pas arrivé depuis 1999, il faudra s'équiper de lunettes spéciales afin de ne pas s'abîmer les yeux en admirant le phénomène céleste. Le savez-vous que dans des époques reculées et dans certaines cultures actuelles, il est attribué aux éclipses solaires des propriétés mystiques ? Les éclipses solaires peuvent être effrayantes pour des personnes ignorant que les éclipses solaires ne leur font rien. En effet, le soleil disparaît soudainement au cours de la journée et le ciel s'obscurcit en quelques minutes. Moi, j'en ai vu une l'année dernière, mais elle n'était pas totale. Et pour ceux qui se le demandent, oui, on pourra la voir vers Nîmes. Voilà, maintenant vous savez tout et à bientôt.
Et voilà, notre émission touche déjà à sa fin. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous sur Radio Ondes de Choc.
Merci beaucoup à tous nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés.
Nous remercions aussi Fabien, animateur radio à Radio Escapade, pour son aide et ses conseils.
Et un grand merci également à Madame Rouvière, professeure documentaliste, qui nous aide à réaliser les émissions tous les lundis au CDI. Et merci également à Jean-Jacques, assistant d'éducation au collège, de nous avoir accompagnés, qui était là aujourd'hui dans les studios de Radio Escapade.
On se retrouve au mois de mai pour une nouvelle émission pleine de surprises.
À très bientôt sur Radio Onde de Choc.
Le collège de Kouta. Des interviews, des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez Onde de Choc.